Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Regard aujourd'hui sur l'Iran depuis le Sénat à Paris à l'occasion du colloque « Iran, les enjeux d'une confrontation » organisée conjointement par les groupes d'amitié France-Iran du Parlement français et l'IREMO, l'Institut de recherche et d'études Méditerranée et Moyen-Orient. Hier vendredi était jour d'élection en Iran. Quelles conséquences géopolitiques auront ces législatives? Le futur Parlement dont on peut attendre qu'ils servent les durcissements en cours en Iran. L'année 2020 a démarré dans un contexte de forte escalade à la fois de tensions et d'attaques entre les États-Unis et l'Iran, chacun définissant son rôle. Les Américains, celui de confronter et de contenir l'Iran. Téhéran, celui de propulser les États-Unis hors du Moyen-Orient. Regard sur l'influence réelle ou supposée de l'Iran dans la région, sa présence et son action. Volonté d'influence régionale, économique, politique, culturelle d'un nouvel État ou d'une société qui vient de vivre 40 ans d'islam politique. Pour en discuter, nous invitons Agnès Levallois, vice-présidente de l'IREMO, l'Institut de recherche et d'études Méditerranée et Moyen-Orient, et maîtresse de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique. Bonjour.
Bonjour.
Amine Mojadan, géographe et chercheur au Centre d'études iraniennes et du Golfe Persique de l'Université de Princeton aux États-Unis. Bonjour.
Bonjour.
Et Bernard Ourcade, géographe, ancien directeur de l'Institut français de recherche en Iran et fondateur de l'équipe de recherche monde iranien au CNRS. Bonjour.
Bonjour.
Depuis 2011, l'Iran a conquis une influence régionale inégalée et est devenu une puissance incontournable au Moyen-Orient. Qu'est-ce que l'on peut dire de la politique étrangère de l'Iran aujourd'hui? Le général Soleimani, assassiné à Bagdad au début de l'année par les Américains, a été la vitrine et l'architecte du système d'influence iranienne hors de ses frontières. Est-ce que l'influence iranienne est remise en cause? Et les élections législatives avec le renforcement attendu des conservateurs peuvent-elles avoir un impact? Agnès Levallois.
Oui, l'Iran a une politique régionale très très importante. On la voit à l'œuvre en Syrie, on la voit en Irak, au Liban bien sûr, dans une moindre mesure au Yémen. Donc il y a cette volonté effectivement de cette influence régionale qui commence à être mise en question, et je crois que c'est un sujet sur lequel on va peut-être revenir dans le cadre des mouvements de contestation qu'on a vu émerger au Liban et en Irak. On a un maître mot qui est repris par les manifestants dans ces deux pays, qui est l'Iran dehors, où nous voulons retrouver notre souveraineté. Et donc on voit bien que cette influence qui s'exerce de la part de l'Iran dans la région commence à atteindre finalement ces populations qui souhaitent que cette influence soit remise en question. Donc ça, c'est sur ces deux terrains particuliers. Et dans le cadre de la Syrie, c'est un cadre quand même tout à fait différent, où là, l'Iran est vraiment active depuis le début du mouvement de contestation en Syrie, mouvement qui s'est transformé en une guerre aujourd'hui. Et on voit l'Iran extrêmement présent et avec évidemment une dénonciation de la part de l'opposition qui estime que cet Iran joue un rôle beaucoup trop important, que les milices chiites iraniennes ou des milices envoyées par l'Iran comme des milices afghanes joue un rôle tout à fait néfaste aux yeux de l'opposition en tous les cas, puisque cet engagement de l'Iran en Syrie est vraiment là pour la défense du régime Assad, la défense du régime tel qu'il existe dans ce pays. Donc il y a différentes façons pour l'Iran d'être présente dans cette région avec des implications très fortes dans certains cas comme la Syrie ou l'Irak, et avec une présence qui est beaucoup plus lointaine, me semble-t-il, si on prend le cas du Yémen.
Alors, on reviendra bien sûr sur ces révoltes à la fois en Iran, en Irak et au Liban pour essayer de comprendre ce qu'elles ont en commun. Bernard Ourcade, Amine Mojadan, sur la politique étrangère aujourd'hui de l'Iran et la place de l'Iran dans la région. Bernard Ourcade.
Alors, l'Iran a une ambition régionale qui n'est pas nouvelle. L'Iran a été un pays puissant depuis le XVIe siècle et a toujours cherché à développer sa présence dans toute la région en tant que puissance culturelle, puissance politique, etc. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que la situation du Moyen-Orient a fait que l'Iran a été embarqué dans une opération militaire qui a été après le printemps arabe, la déstabilisation des régimes, notamment en Syrie, a fait que l'Iran a considéré que le maintien du gouvernement de Bachar el-Assad était essentiel, et la lutte contre Daesh en même temps. Les deux choses étaient concomitantes. Donc pour l'Iran, combattre Daesh, c'est défendre la sécurité nationale. Et donc il était nécessaire pour eux de combattre Daesh, groupe militaire anti-chiite et téléguidé, disait-ils, par l'Arabie saoudite, et donc une division nationale. Cela dit, cela passe aussi, et on l'a vu dans le colloque de vendredi à l'IREMO, par le soutien au gouvernement de Bachar el-Assad, c'est-à-dire une attaque contre les rebelles aussi. Autrement dit, l'Iran a été instrumentalisé un peu dans cette guerre et se trouve effectivement embarqué dans des opérations militaires dont le général Soleimani était un excellent acteur et efficace, et qui fait que l'Iran, qui ambitionne d'être une puissance régionale stable, dynamique et pacifique d'un côté, se trouve de facto dans une opération militaire qui dure depuis 2011 et implique des drames absolument épouvantables comme ce qui se passe à Idlib aujourd'hui et déstabilise effectivement l'Irak, ce qui amène paradoxalement les Iraniens à être dans la position des États-Unis. On disait jadis « Yankee go home », maintenant on dit « Iran go home », c'est un renversement de situation. Et donc l'Iran se trouve très déchiré par ces différentes situations, et le changement politique en Iran n'est pas évident, et les discussions à l'intérieur de l'Iran sur ce qu'il faut faire, se retirer ou bien continuer la guerre, sont vivantes toujours aujourd'hui.
Amin Mohaddam.
Oui, je voudrais juste ajouter un point par rapport à l'image de l'Iran dans le monde arabe. Vous vous souvenez, dans les années de la présidence de Ahmadinejad, il était fier de dire que l'Iran bénéficiait d'une image positive dans la rue arabe. Or, cette implication de l'Iran, implication armée de l'Iran dans la région, lui a fait perdre cette ressource, je dirais, dans le monde arabe. Et les Iraniens aujourd'hui sont face à une situation, les autorités iraniennes, à remédier en fait à cette perte. Et je pense que il y a d'autres solutions pour les Iraniens, comme on voit par exemple la place de la Syrie dans les échanges commerciaux iraniens augmenter, le développement des réseaux économiques iraniens. Peut-être ça sera une solution dans un avenir proche pour les Iraniens de changer leur présence dans la région.
Alors, les manifestations au Liban et en Irak, elles ont révélé des failles dans la stratégie iranienne dans la région. Est-ce que la République islamique a aujourd'hui un problème de modèle ?
Ce que l'on voit, c'est que cette volonté d'être présente de la part de l'Iran... Alors, c'est vrai qu'il y avait ce modèle au départ de la révolution islamique, qui était cette exportation de la révolution islamique. Le seul terrain d'application, finalement, ça a été le Liban, à travers le Hezbollah, où on voit effectivement que l'Iran joue un rôle, ou en tout cas a une influence importante au Liban, à travers le Hezbollah. Et qu'aujourd'hui, dans le cadre des manifestations qui se déroulent au Liban, il y a effectivement une remise en question de ce rôle de l'Iran. Rôle de l'Iran qui est remis en question aussi en raison de l'engagement ou du fait que le Hezbollah s'est trouvé engagé en Syrie, dans les combats en Syrie, à la demande de l'Iran. Et que le fait qu'il y ait évidemment eu des combattants du Hezbollah qui sont morts et dont les cadavres sont rentrés dans les villages a créé une opposition de la part des familles qui ont reçu les corps, en estimant qu'il n'y avait aucune raison que leurs enfants aillent se faire tuer en Syrie, que la Syrie était un pays frère et qu'il n'y avait aucune raison de se retrouver dans cette situation. Donc là, il y a clairement une remise en question du rôle de l'Iran qui demande au Hezbollah de participer au combat. Donc là, il y a une remise en question sur ce point-là. En Irak, c'est un peu différent. En Irak, la remise en question de l'Iran passe par le fait que les Iraniens considèrent que le régime irakien ne tient pas suffisamment tête aux Iraniens et que le système qui est remis en question par les manifestants, un système complètement corrompu, est de dire les Iraniens participent de cela, et ce qu'on leur remet en question, c'est vraiment le fait que les Iraniens soutiennent ce régime. C'est plus finalement le fait que le pouvoir irakien est entre les mains de l'Iran que l'Iran en tant que tel. Il y a une petite nuance dans la perception et dans la dénonciation par les manifestants, mais ça revient quand même à une chose, c'est que dans les mots d'ordre qui sont développés par les manifestants, c'est-à-dire l'Iran dehors. Et on a vu quand même des consulats iraniens brûlés dans certaines villes irakiennes. Donc on voit là qu'il y a un point d'exaspération de la part des Irakiens qui voudraient pouvoir en fait régler leurs affaires entre eux sans avoir cette influence qui s'exerce sur l'élite politique actuellement au pouvoir.
Bernard Orcan.
Je suis d'accord avec ce que vient de dire Agnès Levallois. Les faits sont là. On essaie de voir maintenant comment en sortir et pourquoi on est arrivé là. Il faut bien dire qu'il y a en Iran un grand débat là-dessus sur le rôle extérieur de l'Iran, son influence extérieure, quelle doit-elle. Or, il faut voir une chose importante, c'est que l'Iran aujourd'hui est gouverné par les anciens combattants de la guerre Irak-Iran. Les gens qui ont 60 ans aujourd'hui, qui sont aux commandes, qui sont généraux.
Les les fameux gardiens de la révolution.
Pas uniquement, non. Les députés, les anciens ministres, les anciens Basiji, toute la société iranienne, l'élite, des gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, sont forcément des gens qui ont été dans les années de la guerre Irak-Iran, très actifs, très présents, pour défendre la patrie, la République islamique. Mais ils ont donc une logique qui est de combat. Et ils ont été agressés. Et donc, toute action contre l'Iran ou contre leurs intérêts, la réponse pour eux, elle est militaire. Ce qui fait que lorsqu'il y a des événements politiques en Syrie, au lieu d'essayer de voir comment on pourrait, avec les nouveaux rebelles, trouver une solution politique, etc., ils voient tout de suite, ce qui n'est pas faux par ailleurs, que les autres puissances comme l'Arabie Saoudite cherchent à tirer profit évidemment de la situation. Les Iraniens sont alertés, disent « attention, vous êtes encerclés par l'Arabie Saoudite, Daesh est l'instrument, donc je combats ». Et on utilise les moyens de combat. Or, l'Iran n'a pas de capacité de colonisation, je veux dire, ou d'impérialisme. Agnès Levallois le signait tout à l'heure. Pour défendre Damas, c'est pas les Iraniens chiites persans qui pouvaient être présents pour contrôler Damas. Donc on fait appel au Hezbollah, des Arabes, qui au moins sont plus acceptables dans le paysage. Parce que les Iraniens eux-mêmes, le général Soleimani, avec sa force rose de quelques milliers d'hommes, n'a pas la capacité de contrôler évidemment la Syrie. Mais en Irak, c'est pareil. En Irak, ils arrivent avec leurs gros sabots, je pourrais dire les Iraniens. Saddam Hussein est tombé, nous avons la majorité, on impose un gouvernement sur le modèle de Téhéran. Sans essayer de regarder ce qu'était le fondement de la révolution islamique en Iran, qui était la voix du peuple. Et donc, cette réaction des gens au pouvoir en Iran, qui n'ont de réponse que militaire, fait qu'aujourd'hui, ils sont dans l'impasse, parce qu'effectivement, c'est un échec, et ils se demandent maintenant comment en sortir.
Vous écoutez RFI. Géopolitique.
Alors, je vous passe la parole à Amine Mohada, mais si on veut aller plus loin, la question peut-être qui se pose aujourd'hui à l'Iran est celle de savoir si Téhéran peut ou non perdre le contrôle, finalement, en Irak.
Alors, ça dépend de quel type de contrôle on parle. Lors du colloque d'hier, on a parlé des réseaux économiques et l'Irak est devenu la première destination des produits iraniens. Le pèlerinage est un phénomène social, économique et politique extrêmement important. Des collègues ont déjà montré que cette traversée d'un million de pèlerins qui quasiment, je dirais, enlève les frontières entre les deux pays constitue aussi, pour parler dans le vocabulaire de sciences politiques, de soft power, si vous voulez. Et donc, vous parliez de la présence iranienne aussi en Syrie. Je pense que il est temps pour les Iraniens, parce que les relations avec l'Irak et la Syrie sont existentielles pour la République islamique. Donc, je crois qu'il est temps pour les Iraniens, les autorités iraniennes, à réfléchir à une autre présence dans ces pays, qui peut être justement une présence économique, culturelle, voilà.
Une autre présence dans ces pays. Agnès Levallois, je vous passe la parole après Bernard Orcan.
Je voudrais juste ajouter un point qui me paraît important aussi, c'est que l'Iran, la République islamique, se présente ou s'est présenté comme étant le pays qui défend les populations, les peuples vraiment. Et dans les mouvements de contestation auxquels on assiste aujourd'hui, l'Iran se retrouve du mauvais côté, se retrouve du côté de ceux qui répriment ces mouvements, puisqu'en Irak, on voit bien qu'effectivement, le pouvoir n'a aucune envie de le céder à d'autres, d'autant plus que ces mouvements de contestation ont une particularité, mais comme tous les mouvements à travers le monde aujourd'hui, il n'y a pas de chef, tout le monde refuse un chef ou quoi que ce soit. Mais du coup, cette image de la République islamique, qui était celle qui défendait le peuple dans tout ce que ça représente, aujourd'hui a une image, et ça a été déjà un peu dit, complètement écornée, puisque c'est un pays qui se retrouve de côté de ceux qui répriment. Et donc là, je crois qu'il y a un tournant qui s'est opéré dans la façon d'agir de la République islamique et de l'image que cette République renvoie, qui va poser question et comment surmonter cette orientation.
Bernard Orcan.
C'est justement le fond du débat qui se pose. Et on constate l'échec. Bon, en Syrie, le drame est tellement épouvantable qu'on ne sait pas qui va gouverner après Bachar el-Assad. En tous les cas, la situation est pourrie et l'Iran n'a pas contribué à trouver une solution. En Irak, c'est pareil. Mais ce qui est important, c'est ce que vient de dire Amin Moraddam à l'instant, sur le fait qu'aujourd'hui, une autre chose apparaît, est en train de monter, ce sont les relations économiques de l'Iran et de ses voisins. L'Iran, très longtemps, avait des frontières fermées. L'Union soviétique, le monde arabe n'existait pas, le Pakistan, c'était zéro, et avec l'Irak, c'était un conflit. Maintenant, avec l'Afghanistan, avec l'Irak, avec Dubaï, avec la Géorgie, avec l'Arménie, l'Iran a des relations normales qui passent par l'économie. Peu de choses encore, mais c'est très, très important. Le pèlerinage, j'en ai parlé. Les Iraniens vont en pèlerinage à Kerbela. Et les Irakiens vont en pèlerinage à Machad. Donc, bref, il y a une société qui se met en place. Et à Kerbela, récemment, on disait aux Iraniens, vous êtes pèlerins, vous êtes bienvenus. Et vous êtes Iraniens qui voulaient rester plus de 15 jours après le pèlerinage, vous n'êtes pas bienvenus. Et donc, la bagarre est là aujourd'hui. Et la mort de Soleimani, on en reparlera peut-être. Le général Soleimani marque peut-être une étape. Même si c'est une erreur de l'avoir tué parce qu'il était peut-être un de ceux qui pouvaient également négocier. Mais c'est une autre affaire. Mais donc, la mort de Soleimani marque peut-être le symbole de cette étape de l'Iran guerrier qui ne respecte pas sa mission de défenseur des peuples du Moyen-Orient et qui s'est embarqué dans des guerres épouvantables. Cette période-là est terminée, il faut en trouver une autre. Mais rien ne dit que le gouvernement iranien prochain, le parlement iranien prochain, est capable de faire cela. C'est une autre histoire.
Votre opinion, Amin Moraddam,
oui, sur les manifestations dans les pays voisins, enfin dans les pays de la région et la question de la légitimité de la République islamique, la question se pose de la même manière à l'intérieur de l'Iran. C'est-à-dire que les manifestations récentes, ne pas après l'accident de l'avion, mais du mois d'octobre-novembre, étaient marquées par la présence importante des classes les plus défavorisées. Or, le slogan de la République islamique a toujours été, dès le début, de favoriser les déshérités. Et donc, cette répression massive des manifestants a posé aussi des problèmes à la légitimité de la République islamique, jusqu'à même de redéfinir ce qu'on comprend ou ce qu'on entend par les populations déshéritées. Donc je crois que c'est une question qui se pose aussi bien à l'intérieur de l'Iran qu'à l'extérieur.
Voilà. Finalement, c'est ce qu'il y a de commun, et c'est important, et on revient là-dessus, à tous ces mouvements de contestation, à la fois au Liban, en Irak et en Iran. Si on devait résumer, rassembler les idées, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on a un Iran qui apparaît comme une force réactionnaire qui s'oppose à une révolution démocratique dans les pays qu'on a mentionnés, le Liban, l'Irak ? Bernard Orcan.
L'Iran a toujours cette image, et il y a même parmi les religieux et parmi les gardiens de la Révolution, des gens qui ont toujours les idées révolutionnaires du début. Et on sait très bien, les gardiens de la Révolution, on utilise cette expression, mais il y a 300 sortes de gardiens de la Révolution. Ceux qui étaient engagés au début de la Révolution, en 79, pour l'indépendance, la liberté, la République, etc., et la défense des déshérités, ils ont fait la guerre Irak-Iran, ils sont gardiens de la Révolution, sont retirés, ils ne sont plus actifs aujourd'hui. Et les deuxièmes nouvelles générations, des gens qui sont dans un groupe de 80, 100 000 hommes, une fraction de l'armée iranienne, qui ont des rôles de combat. Et il y a parmi les gardiens de la Révolution certains qui voudraient justement changer les choses, faire évoluer les choses. Et donc, il n'y a pas de réponse unique. Et je pense que le débat politique en Iran est loin d'être fermé. C'est ça qu'il faut voir.
Agnès Levallois.
On voit quand même qu'il y a un raidissement de la part de la République islamique. Et on le voit bien dans le cadre des propos qui sont tenus dans le cadre de ces mouvements de contestation que l'on peut voir un petit peu partout. Et qu'aujourd'hui, c'est vrai que l'Iran peut beaucoup plus difficilement apparaître comme étant un pays qui soutient les revendications populaire, puisque là, c'est exactement l'inverse qui se passe. Et donc, je pense que ça remet effectivement complètement en question tout un discours qui a pu légitimer aussi l'Iran aux yeux de certaines populations dans la région, même si tout le monde n'aidait pas ou ne supportait pas ce mouvement. Mais en tous les cas, il y avait quand même un discours qui passait très bien, en particulier auprès des populations les plus défavorisées en Iran et à l'extérieur. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, avec ces mouvements de contestation, ça n'est plus du tout le cas. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que cette République va devoir se réinventer.
Amin Moraddam.
La République doit se réinventer. Je crois que c'est la classe politique iranienne qui doit se renouveler. Et je pense qu'une des difficultés de la République islamique, Bernard vient de le dire, c'est pas que les gardiens de la Révolution, c'est les députés, c'est tous les hommes politiques qui sont là depuis 40 ans. Or, on a vraiment peu d'individus aujourd'hui dans la République islamique qui peuvent proposer un renouvellement. Les mouvements principaux, les factions politiques principales, ça veut dire les réformistes et puis ce qu'on appelle les principalistes, les plus fondamentalistes, d'une certaine manière, ces forces-là se sont épuisées. Leur assise sociale, je dirais, leur base sociale s'est épuisée et donc la République islamique a du mal à se renouveler politiquement.
au sein de sa classe politique à l'intérieur de l'Iran. D'une certaine manière, la République est un peu vieille aujourd'hui.
Bernard Orcade, pour terminer.
Oui, ce que vous disiez est très juste. Il y a aujourd'hui en Iran, j'en ai pu en voir, des vrais révolutionnaires qui disent « le compte n'y est pas ». Et donc aujourd'hui, l'échec qu'il y a en Syrie, en Irak, un peu partout, le fait que la République islamique, la crise économique est énorme, et les sanctions américaines sont telles que la classe politique est au bout du rouleau et n'est plus crédible, il faut trouver une solution. Pour l'instant, c'est un vide politique, une abstention générale, un désespoir, mais ça peut rebondir. Mais il y a en Iran des gens qui disent « il faut que ça rebondisse, on a des moyens de rebondir ». Comment ?
Géopolitique, on vous retrouve, Bernard Orcade, Agnès Levallois et Amine Moradam après le journal. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur l'Iran à l'occasion du colloque Iran, les enjeux d'une confrontation organisée conjointement par les groupes d'amitié France-Iran du Parlement français et l'IREMO, l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient. Nous retrouvons nos invités, Agnès Levallois, vice-présidente de l'IREMO et maîtresse de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique. Amine Moradam, qui est géographe et chercheur au Centre d'études iraniennes et du Golfe Persique de l'Université de Princeton aux États-Unis, et Bernard Orcade, géographe et ancien directeur de l'Institut français de recherche en Iran et fondateur de l'équipe de recherche Monde iranien au CNRS. Bernard Orcade, on a évoqué dans la première partie de l'émission très rapidement l'assassinat du général Soleimani, assassiné à Bagdad au début de l'année par les Américains. Est-ce qu'on peut considérer cet événement comme un tournant à la fois dans la politique américaine dans la région et dans la politique iranienne ?
Les États-Unis et l'Iran étant de facto en guerre multiple depuis longtemps, l'assassinat du général n'est qu'une étape finalement, peut-être pas aussi importante que cela, mais c'est symboliquement une date. Et donc s'il faut distinguer entre ce qui vient de se passer depuis 2011, jusqu'à maintenant l'intervention militaire iranienne dans toute la région par multiples proxys, et la mort de Soleimani, effectivement c'est une date qui se termine. Et sa mort peut être utilisée pour tourner la page et tout voir autre chose. Cela dit, ce qui est intéressant dans la mort de Soleimani, c'est que dans un premier temps, il était soutenu et pleuré par les militants les plus islamiques, les plus durs, partisans de l'expansion militaire de l'Iran jusqu'à Beyrouth. Et deuxièmement, a été soutenu aussi par les nationalistes iraniens qui ont pleuré un général de la République et qui étaient pour le fait que l'Iran doit être défendu. Donc d'un côté, il était celui qui était expansionniste et d'autre qui défendait la patrie. Et c'est intéressant de ce point de vue-là, et montre bien les tendances qu'il y a en Iran, qui sont posées par la mort de Soleimani, pour laquelle il n'y a pas encore de réponse, mais au moins les données du problème sont posées.
Alors, des manifestations, là aussi, qui venaient après les manifestations de l'automne pour protester contre un certain nombre de choses en Iran, Amine Moradam, et puis un mouvement de solidarité derrière cet assassinat du général Soleimani. Donc finalement, on voit une population iranienne fonctionner presque sur deux tableaux, ou en tout cas avec une sorte d'effet miroir.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que il y a d'une part, je pense pas qu'on puisse vraiment séparer ces populations, des groupes distincts des uns des autres. Mais on a vu la réaction des Iraniens par rapport à l'assassinat de Soleimani. La réaction des Iraniens après l'accident de l'avion ukrainien. Et puis, il y a eu aussi 40 morts pendant l'enterrement de Qassemi à Kerman. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on ne parle pas des mêmes Iraniens nécessairement. Les Iraniens qui ont réagi fortement et qui se sont mobilisés dans les rues de Téhéran après l'accident de l'avion ukrainien, je pense que ceux qui étaient le plus touchés par cet accident étaient ceux des classes moyennes, aisées, éduquées, qui sentaient que cet accident était beaucoup plus proche d'eux que, par exemple, ceux qui ont pleuré la mort de Qassemi. De la même manière que les manifestations du mois d'octobre étaient caractérisées, comme on l'a dit auparavant, par la présence des classes les plus défavorisées. Ça renvoie à une problématique iranienne qui est le creusement des inégalités sociales en Iran depuis les années 90, depuis la fin de la guerre Iran-Irak, il y a eu des politiques très libérales, néolibérales, si vous voulez, qui ont creusé ces inégalités-là. Et je pense qu'on peut vraiment aujourd'hui parler en termes de classe sociale, si vous voulez, dans une lecture très marxiste, et qui explique un peu le comportement sociopolitique des Iraniens par rapport à ces événements.
Alors cet assassinat du général Soleimani, il a fait culminer d'une certaine manière la tension entre les États-Unis et l'Iran, de part et d'autre, situation un peu figée aujourd'hui, où le temps est presque suspendu. Côté américain, il y a l'élection de novembre prochain, et côté iranien, les élections présidentielles en 2021. Agnès Levallois.
Oui, c'est vrai qu'on est dans une relation extrêmement tendue entre les Américains et les Iraniens, que les derniers mois ont été des mois avec beaucoup d'incidents dans le Golfe, Golfe Persique, qui a fait craindre à certains que ces affrontements ou ces tensions dégénèrent en guerre, avec l'idée que dans ce Golfe, finalement, personne n'avait vraiment envie d'aller jusqu'à un conflit, même si l'accident est toujours possible, puisque lorsqu'il y a eu, souvenez-vous, les installations pétrolières saoudiennes qui ont été visées par des drones et des missiles de croisière iraniens, on a cru à ce moment-là qu'il y aurait peut-être une réaction américaine. La réaction américaine n'étant pas venue, les Iraniens se sont dit, ben, finalement, on est convaincu maintenant que Trump ne veut pas d'une guerre à quelques mois de l'élection présidentielle américaine, puisque Trump a été élu sur l'idée selon laquelle il n'y aurait pas de nouvel engagement militaire américain dans le Golfe. Et finalement, à un moment où on s'y attendait pas, il y a eu cette décision américaine d'assassiner Qassem Soleimani et qui a fait repartir la tension. Donc du coup, les Iraniens, évidemment, ont réagi. Pour la première fois, d'ailleurs, la riposte iranienne a été revendiquée par les autorités iraniennes, alors que jusque-là, toutes les attaques qu'on avait attribuées aux Iraniens ne l'avaient pas été directement. C'était des proxys, comme on dit, c'est-à-dire que dans le cas des installations saoudiennes, c'était la milice houthiste du Yémen qui avait revendiqué l'opération, même s'il n'y avait aucun doute sur les commanditaires et d'où venait le tir. Mais là, je pense en termes de crédibilité sur la scène intérieure iranienne, les Iraniens ne pouvaient pas ne pas réagir après l'assassinat d'un des hommes forts de ce régime. Et donc les Iraniens réagissent et en revendiquant cette opération, estimant qu'ils devaient absolument montrer à leur population qu'ils ne se laisseraient pas attaquer de la sorte par les Américains. Donc tout ça pour dire qu'on est dans une situation effectivement extrêmement tendue dans le Golfe, avec une inquiétude très forte de la part des pays arabes du Golfe face à cette montée des tensions, parce que ces pays arabes du Golfe savent qu'ils sont extrêmement vulnérables face à l'Iran, puisque l'utilisation soit de missiles balistiques, soit de missiles de croisière, en fait, qui sont des moyens asymétriques par rapport à la force de frappe dont dispose en particulier l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite n'a rien pu faire, il n'y a pas eu de système de défense antiaérien qui ont pu arrêter ces missiles de croisière, et donc ça donne une force de ce point de vue-là à l'Iran par rapport à ces pays du Golfe qui sont du coup tétanisés et qui commencent à s'inquiéter sur le fait qu'ils ont beaucoup poussé les Américains dans une attitude radicale vis-à-vis de l'Iran en les poussant à sortir de l'accord nucléaire, ce qui a conduit à l'imposition des sanctions américaines contre l'Iran. Et ils se rendent bien compte maintenant que ça les met en un état de vulnérabilité très grande, puisque juste pour finir, un mot qui m'a frappé la dernière fois que j'étais en Iran, c'est que les Iraniens me disaient, si on nous empêche d'exporter notre pétrole, pour nous c'est une déclaration de guerre, et même si nous ne voulons pas la guerre, c'est une déclaration de guerre et nous riposterons.
Oui, Bernard Rocal.
C'est tout à fait important cela. Pour les Iraniens, l'exportation de pétrole est essentielle. L'Iran exporte 300 millions de barils, alors que d'habitude, il exportait 2 millions de barils par an. 300 000, oui, au lieu de 2 millions. Autrement dit, un effondrement économique qui peut aboutir à des catastrophes internes. Donc la guerre, elle existait entre les deux. L'attaque des Iraniens, concrètement, contre l'Arabie Saoudite et l'Aramco, a été un élément très important. La guerre entre les deux pays existait, mais l'Arabie Saoudite s'est rendue compte qu'eux-mêmes n'étaient pas capables de riposter ou d'empêcher. Les Américains n'étaient pas prêts à faire la guerre pour l'Arabie Saoudite. Et donc tout le monde se trouve dans l'impasse. À Idlib, aussi, en Syrie, c'est une drame épouvantable. Personne ne s'en sort. L'Irak est dans le chaos et on dit aux Iraniens qui étaient les libérateurs de l'Irak, on dit rentrez chez vous. Bref, l'échec est de tous les côtés. Et ce que je vois d'intéressant dans ce drame, dans la mort de Soleimani, le symbole, c'est qu'effectivement, l'Arabie Saoudite et l'Iran, qui sont les deux grandes puissances en conflit en quelque sorte, se rendent compte qu'ils n'ont rien à attendre de quelqu'un d'autre, ni des Européens, ni des Américains, ni des Russes, ni des Chinois, et qu'ils devront trouver une solution entre eux. Et les drames qu'on vient de vivre, dont sont victimes surtout les Irakiens et les Syriens pour les Yéménites, peut-être trouver une solution, soyons optimistes.
Alors, solution, ça veut dire peut-être des pourparlers. J'aimerais peut-être qu'on poursuive un tout petit peu sur la relation entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Il y a une étude de l'International Institute for Strategic Studies qui est basée à Londres, qui dit que l'Iran a aujourd'hui gagné la bataille stratégique pour son influence au Moyen-Orient sur son rival en Arabie Saoudite. Vous partagez, Amin Mohanam, et est-ce important ?
On a parlé de cette perte de l'image positive de l'Iran. Donc, en fait, l'Iran n'a pas gagné sur tous les plans. L'Iran a pu peser par rapport à l'Arabie Saoudite sur le terrain irakien, par exemple. Mais l'Iran a beaucoup perdu aussi, je pense, dans la région avec cette implication militaire. Je ne sais pas, vraiment, peut-être...
Agnès Levallois.
Ce que je pense, c'est que les Saoudiens ont compris qu'en dépit de l'effort militaire considérable fait par ce pays depuis maintenant des dizaines d'années. On parle de centaines de milliards de dollars dépensés par les Saoudiens pour s'armer. Ils se rendent compte que ça ne sert à rien. Alors, s'ils ont acheté ce matériel, c'est pas forcément pour l'utiliser, mais parce qu'ils achetaient par là même une assurance vie auprès des Américains. Ce que les Saoudiens ont compris après l'affaire d'Aramco, c'est que les Américains ne voulaient pas agir, et quand Mohammed Ben Salman, le prince héritier, dit après l'attaque, c'est une affaire qui concerne la communauté internationale, et que Trump répond en disant c'est une affaire saoudienne, les Saoudiens ont pris un coup sur la tête, parce que eux s'attendaient à ce que Trump aille dans le même sens qu'eux et réagisse face à l'Iran pour montrer à l'Iran que ça n'était pas acceptable qu'ils envoient des drones ou des missiles sur le territoire saoudien, alors qu'il y avait déjà eu en plus d'autres missiles qui étaient partis du Yémen contre l'Arabie Saoudite. Donc l'Arabie Saoudite, en dépit de tout cet effort, se rend compte qu'elle est d'une vulnérabilité extrême. Et donc, elle est dans un état de panique, et elle se rend compte aujourd'hui que pour sortir de cette panique, alors qu'elle sait qu'elle ne peut plus compter de la même façon sur les Américains, en dépit de toutes les déclarations de Trump avec son grand copain saoudien, ça ne correspond à rien réellement. Et donc l'Arabie Saoudite commence à avoir un discours un peu plus ouvert à l'égard de l'Iran. Les Émirats Arabes Unis, qui sont en première ligne aussi, quand on voit la position géographique des Émirats, les Émirats sont dans une volonté de désescalade également avec l'Iran, parce qu'ils se rendent compte que si un missile tombe sur les Émirats Arabes Unis, l'économie des Émirats s'effondre et tout le monde part. Et donc ce pays n'existe plus. Je caricature à l'extrême, évidemment. Mais c'est ça l'idée. Donc il y a une volonté, enfin une prise de conscience de la part des Saoudiens et des Émirats, parce que les autres pays de la région, finalement, ont des relations avec l'Iran, plus ou moins, mais les deux qui étaient les plus radicaux à l'égard de l'Iran, Arabie et Émirats, se rendent compte que cette stratégie est une stratégie qui revient en effet boomerang, qui est absolument dramatique, et qu'il va peut-être falloir enfin s'asseoir autour d'une table avec les Saoudiens, parce que les deux puissances régionales du Golfe, ce sont l'Iran et l'Arabie Saoudite.
Bernard Horkan.
Tout à l'heure, est-ce que l'Iran est en position de force? C'est peut-être le problème, et les Iraniens, pardonneront, sont assez arrogants. Ils disent, dès qu'ils ont une puissance, ils en rajoutent, ils disent « je suis le meilleur et j'ai droit à beaucoup de choses ». Ce qui a expliqué leur action militaire notamment. Mais ils se sont rendus compte aujourd'hui que cette action militaire, cette volonté d'hégémonie de certains groupes en Iran, ils sont incapables de la mener, de la gérer. Pour pouvoir contrôler l'Irak et la Syrie, et le Liban et l'Afghanistan, il faut des moyens, il faut une tradition, il faut une armée que l'Iran n'a pas et n'a pas intérêt à le faire. D'autant plus qu'en Iran, les Iraniens d'Iran disent « nous voulons l'indépendance du pays ». On a parlé tout à l'heure des inégalités sociales. Voilà le problème. Et dans le gouvernement iranien aujourd'hui, quelle que soit sa majorité politique, il va sortir des élections. Il sait très bien qu'il ne peut pas se lancer dans un contrôle direct du Moyen-Orient et qu'il devra négocier et tenir compte de tout. Parce qu'à l'intérieur, il y a justement une action importante de la population iranienne qui dit priorité à l'Iran, même s'il est normal que l'Iran ait une influence normale en Irak, en Syrie, en Afghanistan ou ailleurs, comme n'importe quel pays du monde. Mais l'échec de ce qui s'est passé en Irak ou en Syrie peut-être sera analysé et pris en considération.
Alors, priorité à l'Iran, est-ce qu'on peut imaginer que ça soit un pilier de la stratégie nouvelle de l'Iran aujourd'hui, que nous évoquions dans la première partie de l'émission? Comment peut-on imaginer un changement de stratégie, puisqu'il y a échec, en tout cas peut-être relatif, mais échec tout de même, en Irak, au Liban? Quelles leçons l'Iran peut-être à même de tirer de tout cela et faire évoluer sa stratégie? Bernard Horkan.
L'évolution, on n'en sait rien. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les Iraniens sont écrasés. Il y a une abstention très forte aux élections. Les gens disent, on est écrasés par Trump, les Russes, on ne peut pas compter sur eux, les Européens n'ont rien fait, on est presque à crever la faim, le chômage est énorme, etc. Et par ailleurs, on nous a bombardés. Donc, il y a un désespoir en Iran, une espèce de culte de l'échec, le culte du martyr, dans lequel les Iraniens se replient. Et ils sont capables de se replier sur cette idéologie du martyr et de l'agression, de l'humiliation. Ça n'a pas duré 107 ans, parce qu'il y a en Iran aussi toute une nouvelle bourgeoisie moyenne musulmane, nationaliste, qui a envie de faire quelque chose, qui est ouverte à la mondialisation et qui a envie de vivre aujourd'hui et qui n'est pas prête à attendre 20 ans. Et donc, il ne faut pas dire qu'il y aura un changement de régime. Non, ce n'est pas le régime qui est en cause. C'est l'Iran. Est-ce que la population iranienne, la nation iranienne, va trouver un moyen de rebondir? Sur quel vecteur? Avec quelle ouverture possible? C'est là que l'élection présidentielle de l'Iran en 21, dans un an, peut être un élément important, parce que c'est en Iran l'élection présidentielle qui est vraiment très essentielle.
Alors, j'aimerais qu'on se pose la question peut-être aujourd'hui de savoir quelle est l'intention américaine aujourd'hui. Est-ce que c'est le changement de régime en Iran? Est-ce que c'est une rencontre avec le président iranien? Et quelques mots peut-être sur le désengagement américain, un désengagement qui ne parvient pas à se faire. Les Américains ont beau dire qu'ils souhaitent quitter cette région, ils n'y parviennent pas. Là aussi, on est dans un temps long davantage que dans un temps court. Amin Mohaddam.
Oui, sur la politique américaine, la politique américaine se définit par rapport aux enjeux électoraux des États-Unis, c'est-à-dire que certaines décisions de Donald Trump étaient liées aux enjeux électoraux que la scène intérieure lui posait. Je pense que les États-Unis n'ont pas envie de s'engager dans une intervention militaire avec l'Iran, ne serait-ce que parce que Donald Trump a été élu sur la promesse de se désengager justement de la région. Il y a cette politique intérieure américaine qui pèse beaucoup sur son intervention et sur son rôle dans la région, notamment vis-à-vis des Iraniens.
Agnès Levallois.
Ce que je pense, c'est qu'on parle beaucoup effectivement du désengagement américain dans la région, mais je pense qu'il faut vraiment relativiser cette façon que l'on a de parler de ce désengagement. Si on entend par désengagement le fait que Trump ne veuille pas mener une opération militaire sur place, oui, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il y a un désengagement. On a bien vu, Trump a renvoyé des soldats en Arabie Saoudite après l'affaire de début de l'année de Qassem Soleimani. Donc on voit bien que cette question de désengagement, en plus je pense, n'interviendra pas, parce que les Américains ont besoin de l'Arabie Saoudite dans le cadre de la gestion des prix du pétrole, des cours du pétrole. C'est quand même un allié américain dans ce domaine. Et c'est vrai que l'engagement américain dans la région tient aussi à la sécurité d'Israël, et que ça, les Américains ne renonceront pas à cela.
Bernard Roucan.
L'accord sur le nucléaire prévoyait le blocage du nucléaire iranien, mais aussi l'ouverture économique de l'Iran, dans lequel les Américains auraient pu participer. Et on sait qu'en Iran, c'est la nation la plus pro-américaine, en quelque sorte, du Moyen-Orient. Donc si les choses pouvaient s'arranger, effectivement, les Américains seraient plus modestes en matière militaire dans la région, mais l'Iran est un pays qui leur serait ouvert sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan universitaire, etc. Et on peut espérer que les Iraniens seront capables de recevoir cela, de s'ouvrir à une influence internationale de façon plus calme, et que à chaque fois qu'il voit un Américain, c'est un impérialiste. Non, les Américains ne sont plus impérialistes, ils ne peuvent plus le faire. Par contre, un universitaire venant de Princeton peut être apprécié en Iran. Et donc, il y a cette ouverture économique qui est la clé, en fait, de la situation et du drame. Les Iraniens ne peuvent pas exporter de pétrole parce qu'il y a un embargo qui interdit à toute entreprise française, allemande ou autrichienne de travailler en Iran. Et donc, l'embargo est le cœur du système. Si le président Trump réussissait à sortir un peu de cela, ça changerait les choses.
Pour les Iraniens, par rapport à ce problème d'exportation du pétrole, quelque part la bonne nouvelle, parce que le guide suprême iranien appelait l'économie de la résistance, c'est la diversification aussi quand même, qui ne remplace pas évidemment l'exportation du pétrole, mais c'est la diversification des exportations iraniennes qui pourrait à long terme être une autre présence des Iraniens dans la région. Hier, on a parlé de l'exportation de l'électricité iranienne vers ses voisins, du ciment, enfin d'autres secteurs qui se sont développés sous contrainte et qui pourraient à long terme jouer un rôle important aussi bien dans l'économie iranienne à l'intérieur de l'Iran que dans les liens que l'Iran pourrait avoir avec son voisinage.
En guise de conclusion sur état des lieux, perspective, Bernard Orcan.
Grande question, parce que les Iraniens sont découragés aujourd'hui, et c'est une des grandes questions qui se posent. Ils ne participent plus au vote, ils ne croient plus en pas grand-chose, et de savoir qui pourra, de l'extérieur ou de l'intérieur, redynamiser une population iranienne qui rêve effectivement de jours meilleurs.
Agnès Levallois.
C'est de voir finalement que tous les pays de la région sont soumis à des mêmes phénomènes de remise en question du système politique, économique, avec des formes nationales évidentes. Mais ce que révèle ce qui se passe dans l'ensemble de la région nous oblige aussi, nous, je pense, à revoir et à regarder les choses en essayant peut-être de prendre en compte cette nouvelle donne assez déstabilisante, il faut le reconnaître.
Oui, je rejoins mes collègues sur la question de la légitimité. politique des États, y compris l'État iranien. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que cette légitimité politique à l'intérieur de l'Iran, qui est remise en cause, et on voit le taux bas de participation aux élections législatives, qui en est une manifestation, mais aussi le phénomène, je dirais, presque transnational à l'échelle de la région, et qui fait que cette légitimité à l'intérieur, comme à l'extérieur, sont des phénomènes très interdépendants.
Merci, c'est la fin de Géopolitique. Amine Mohadam, je rappelle que vous êtes géographe et chercheur au Centre d'études iraniennes et du Golfe Persique de l'Université de Princeton aux États-Unis. Merci aussi Agnès Levallois, vice-présidente de l'IREMO, l'Institut de recherche et d'études Méditerranée et Moyen-Orient et maîtresse de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique, et Bernard Ourcade, géographe et ancien directeur de l'Institut français de recherche en Iran et fondateur de l'équipe de recherche Monde iranien au CNRS. Géopolitique était signée Marie-France Chatin, Marc Fichet et Nathalie Laporte. Demain, nous parlerons intelligence artificielle avec la parution du livre blanc de la Commission européenne et de la place de l'Europe face aux États-Unis, la Chine et la Russie. À demain. Le coq chante.